venu sur terre, toujours fidèle à la voix de son père, sans dire un seul mot pour prier. Il a choisi d'aimer malgré la souffrance, les clous et la lance. Il a porté tous mes péchés, l'ami du pécheur, notre rédempteur,
Jésus
est l'exemple parfait. Ressuscité, il a vaincu la mort. L'humanité a trouvé son trésor. Humble serviteur, humilié, que le Père a nommé grand roi éternel.
Acclamé du ciel.
Ok, on va faire l'autre. On reçoit la paix du Seigneur. Bonjour, je vous invite à regarder un chant qu'on va chanter à la fin. Et donc maintenant je vais vous l'entraîner dans ce chant. Ça s'appelle « Reçois la paix du Seigneur ». Si Thierry est dans les parages, Thierry et peut mettre les paroles, ce sera très utile. Il arrive tout juste, si quelqu'un peut lui dire, de mettre les paroles « Reçois la paix du Seigneur ». Nous allons le chanter une fois, et puis je vous invite de chanter avec nous.
Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant et pour toujours. Dieu te bénisse et qu'il te garde, son visage brille toujours sur toi. Dieu te bénisse et qu'il te garde, que son visage brille toujours sur toi. Reçois sa paix.
Reçois sa paix, on peut reprendre.
Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Reçois sa paix.
Dieu nous accueille dans sa maison. L'amitié et la joie, le pardon et le courage nous sont donnés par Dieu, le Père qui tient le monde en son amour. Le Christ venu dans le monde porter l'amour du Père, l'Esprit qui nous souffle au cœur les mots d'amour du Père. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte et de communion, où ensemble nous goûterons à l'amitié de Dieu.
Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous sommes venus aujourd'hui devant toi, petits et grands, les uns dans la joie, d'autres dans la peine ou dans l'inquiétude, d'autres encore les deux à la fois. Parce que dans leur vie, dans la vie, les joies et les peines se mélangent. Nous sommes venus devant toi pour te rencontrer, pour entendre ta voix et recevoir de toi une parole de vie. Merci de nous accueillir et d'envoyer sur nous ton souffle de vie. Amen.
Le Seigneur est grand. Notre Dieu mérite qu'on le loue. Dans la ville qui est la sienne, la montagne qui lui appartient, a dit le psalmiste en psaume 48. Et ailleurs, il a dit que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu Saint, que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous les péchés. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire.
Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Éveille-toi, viens au-devant de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le Souverain Maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Un sage le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. C'est ton ressort pour voir tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Car unissant tout en marchant en son nom, alléluia d'âge en âge. Car unissant tout en marchant en son nom, alléluia d'âge en âge. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
de me réjouir de l'abondance de Dieu aujourd'hui en me joignant à la louange ancienne de tout le peuple de Dieu selon les paroles de Psaume 68. Tu as envoyé une pluie abondante au Dieu pour rafraîchir la terre fatiguée. Là, ton peuple s'est finalement installé et avec une abondante moisson au Dieu, vous avez pourvu aux besoins de votre peuple. Moi, j'aimerais vous poser une question. Dieu est grand. Dieu est amour. Dieu est puissant. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux.
Dieu est saint.
Il est compatissant. Tu es riche en bonté, on vient de le chanter. Il est lent à la colère. Oui. Commence à citer l'écriture là. Dieu est mystérieux. Dieu est l'éternel, oui, Dieu est éternel. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. On va chanter un chant, Jésus est. On va découvrir ce que Jésus est dans ce chant. Je vous invite de nouveau à vous lever.
Emmanuel, il est venu sur terre, toujours fidèle à la voix de son Père, sans dire un seul mot pour prier. Il a choisi d'aimer malgré la souffrance, les clous et la lance. Il a porté tous nos péchés, l'ami du pécheur, notre Rédempteur. Jésus est l'exemple parfait.
Je me rends compte que c'est sans doute nouveau pour plusieurs. On l'a fait une fois, mais il y a longtemps. Nous, on l'a chanté juste avant. Vous ne saviez pas, mais nous, on était en train de répéter à votre place pour que ça rentre dans le sous-conscient. Maintenant que vous l'avez entendu pour une troisième fois, on va reprendre ce premier strophe.
Emmanuel, il est venu sur terre, toujours fidèle à la voix de son Père, sans dire un seul mot pour prier. Il a choisi d'aimer malgré la souffrance, les clous et la lance. Il a porté tous nos péchés, l'ami du pécheur, notre Rédempteur. Jésus est l'exemple
ressuscité.
Ressuscité, il a vaincu la mort. L'humanité a trouvé son trésor. Humble serviteur, humilié, que le Père a nommé grand roi éternel, acclamé du ciel. Et tous les anges, à lui la victoire, l'honneur et la gloire. Jésus est le Sauveur parfait.
Nos cœurs sont prêts.
Nos cœurs sont prêts à partir avec lui. Il est la paix que nous avons choisie. Il revient bientôt nous chercher pour toute éternité. Le cri de l'âme sombre de nos âmes, nous bénirons son divin nom. Notre sa présence, Jésus est le Seigneur parfait.
Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour qui tu es. Merci que tu es le Sauveur parfait, tu es celui qui a pris nos péchés. Tu es la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin. Nous ne sommes pas là parce qu'on est religieux, parce qu'on mérite quelque chose. Mais on est là, Seigneur, grâce à ce que toi, tu nous as donné comme don, comme cadeau, le salut éternel. Merci pour qui tu es, que tu es l'éternel Dieu. Merci que tu es l'espoir dans un monde où il en manque. Merci que tu es le chemin, la vérité, la vie. Merci pour ta présence avec nous ce matin. Merci de bénir les enfants maintenant qu'ils vont à leur école de dimanche. Que tu sois également présent avec eux, que tu puisses aussi leur parler. Puisse aussi, Seigneur, ouvrir leur cœur, Seigneur, à toi, pour t'inviter à faire partie de leur vie, qu'ils puissent te servir. Au nom de Jésus. Amen. Donc les enfants peuvent partir à l'école du dimanche, nous on va s'asseoir.
Entre ce que je pense,
ce que je veux dire,
ce que je crois dire,
ce que je dis,
ce que tu veux entendre,
ce que tu entends,
ce que tu crois comprendre,
ce que tu veux comprendre,
ce que tu comprends, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre.
Cherchez avant tout à aimer les autres. Désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu.
Si quelqu'un parle en langues inconnues, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses.
Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux gens. Il construit la communauté. Il encourage et il console.
Celui qui parle en langues inconnues ne construit que lui-même. Au contraire, celui qui parle au nom de Dieu construit la communauté tout entière.
Je souhaite que vous parliez tous en langues inconnues, mais j'aime encore mieux que vous parliez au nom de Dieu. Parler au nom de Dieu, cela vaut mieux que de parler en langues inconnues, sauf si quelqu'un traduit. Pour construire la communauté.
Frères et sœurs chrétiens, prenons un exemple. Je viens vous voir et je vous parle en langues inconnues. Si mes paroles ne vous apportent rien, ni message clair, ni connaissance, ni parole de la part de Dieu, ni enseignement, est-ce que je vous rends service ?
C'est la même chose pour les instruments de musique, comme la flûte ou la sitar. Si leurs sons ne sont pas différents, comment distinguer la musique que chacune joue?
Et si la trompette ne sonne pas clairement, qui va se préparer pour le combat?
Pour vous, c'est pareil. Si vous parlez avec des mots qu'on ne comprend pas, comment savoir ce que vous dites? Vos paroles sont du vent.
Il y a beaucoup de langues différentes sur la terre. Et toutes veulent dire quelque chose.
Si je ne connais pas la langue de la personne qui me parle, je suis pour elle un étranger et elle est une étrangère pour moi.
pour vous, c'est pareil. Puisque vous désirez les dons de l'Esprit-Saint, cherchez-les toujours davantage, mais pour construire la communauté rassemblée.
C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit prier pour avoir le don de les traduire.
Si je prie en langues inconnues, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne travaille pas.
Alors que faire ? Je prierai avec mon cœur, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon cœur, mais je chanterai aussi avec mon intelligence.
Si tu remercies Dieu seulement avec ton cœur, le croyant qui n'y connaît rien ne sait pas ce que tu dis. Alors, comment pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de remerciement ?
Cette prière est sans doute très belle, mais elle n'aide pas les autres à faire des progrès.
Grâce à Dieu, je parle en langues inconnues plus que vous tous.
Mais dans l'assemblée des chrétiens, j'aime mieux dire 5 paroles claires que 10 000 mots inconnus. De cette façon, j'apprends aussi quelque chose aux autres.
Frères et sœurs, quand vous réfléchissez, ne soyez pas des enfants. Pour faire le mal, oui, soyez des bébés. Mais pour réfléchir, soyez des adultes.
Dans les livres saints, le Seigneur dit « Je parlerai au peuple d'Israël » par des gens qui parlent une langue étrangère, par la bouche d'étrangers. Et pourtant, ils ne m'écouteront pas.
Donc, quand quelqu'un parle en langues inconnues, c'est un signe pour ceux qui ne croient pas. Mais cela ne sert à rien pour ceux qui croient. Quand on parle au nom de Dieu, c'est un signe pour ceux qui croient, mais cela ne sert à rien pour ceux qui ne croient pas.
Par exemple, toute l'Église est rassemblée et tous parlent en langues inconnues. Des croyants qui n'y connaissent rien et des incroyants arrivent. Ils vont penser que vous êtes fous.
Au contraire, tous parlent au nom de Dieu. L'incroyant ou le croyant n'y connaît rien, arrive. Alors, tout ce qu'il entend le fait réfléchir et il se sent jugé par tous.
Les choses cachées au fond de son cœur deviennent claires et il tombe à genoux, le visage sur le sol. Il adore Dieu et il dit « Oui, Dieu est vraiment parmi vous. Hein. »
Alors, frères et sœurs chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand vous êtes réunis, chacun peut chanter ou enseigner, faire connaître une chose cachée, ou bien traduire ce qu'on vient de dire. Mais tout cela doit servir à construire la communauté.
Si des gens veulent parler en langues inconnues, 2 personnes peuvent le faire. 3 au plus, mais l'une après l'autre, et il faut traduire.
S'il n'y a personne pour traduire, ils doivent se taire. Chacun parlera seulement à lui-même et à Dieu.
2 ou 3 peuvent parler au nom de Dieu. Les autres doivent examiner ce qu'ils disent.
Mais si Dieu donne un message à quelqu'un d'autre, celui qui est en train de parler doit se taire.
Oui, vous pouvez tous parler au nom de Dieu, mais l'un après l'autre. Alors, tous recevront l'enseignement et seront encouragés.
Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don que Dieu leur fait. En effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix.
Comme cela se fait dans toutes les églises chrétiennes, les femmes doivent se taire dans les assemblées. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Elles doivent rester tranquilles et écouter, comme la loi le dit.
Si elles veulent une explication, elles doivent interroger leur mari à la maison. Pour une femme, parler dans une assemblée, cela ne se fait pas.
Ou bien, vous pensez peut-être que la parole de Dieu est venue de chez vous. Est-ce que vous êtes les seuls à l'avoir reçue?
Si quelqu'un croit parler au nom de Dieu ou de l'Esprit-Saint, il doit reconnaître une chose. Ce que je vous écris est un commandement du Seigneur.
Mais s'il ne reconnaît pas cela, Dieu ne le connaît pas non plus.
Alors, frères et sœurs, vous devez désirer parler au nom de Dieu. N'empêchez pas les autres de parler en langues inconnues. Mais tout doit se passer avec calme et dans l'ordre.
Je vous invite à prier. Notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole est vérité. Rends-nous disponibles et disposés pour toi et pour autrui par ta vérité. Ta parole est vérité. Par elle, rends-nous libres pour aimer et construire avec toi le monde où tu règnes. Ta parole est vérité. Donne-nous de l'entendre pour en vivre et pour oser en témoigner. Amen.
Bonjour à chacun, à chacune. Nous sommes donc depuis quelques semaines dans cette section assez passionnante, je trouve, de la première lettre de Paul aux Corinthiens, sur la vie en Église. Comment ça se passe quand des chrétiens, des chrétiennes se retrouvent, et en particulier pour célébrer un culte, un peu comme nous le faisons ce matin? Nous avons réfléchi il y a déjà quelques semaines au chapitre 11, à la façon de célébrer le repas du Seigneur, en nous attendant, en nous valorisant les uns les autres, en prenant du temps pour nous souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il est notre Sauveur. Toujours dans cette première partie de l'argumentaire de l'apôtre, il en vient au chapitre 12 à dire qu'il y a une grande variété de dons et de services, et que tous ces dons, tous ces services sont accordés par le même esprit pour le bien de l'Église, et qu'il importe de pratiquer nos dons et nos services pour le bien de tous dans l'Église. La deuxième partie de l'argumentaire, c'est au chapitre 13, et c'est là de dire que l'amour est bien plus important que tous les dons, même spectaculaires. Que l'on peut tout dire dans la vie, que l'on peut tout savoir, que l'on peut tout pouvoir, mais que si l'amour n'est pas là, au centre, alors toutes nos initiatives seront vaines. C'est sur l'amour qu'il faut se focaliser. Le reste suivra. Et maintenant, au chapitre 14 dont nous avons entendu la lecture, merci beaucoup. Au chapitre 14, Paul apporte une réponse précise à un problème précis. Que penser de tous ces gens qui parlent au culte dans des langues inconnues? Le problème précis d'en Corinthiens 14, c'est ça. Que penser de tous ces gens qui parlent au culte dans des langues inconnues? Comment faire pour que l'Église soit édifiée et que les gens du dehors, dit-il, les gens qui nous visiteraient à l'occasion d'un culte, que ces gens-là y trouvent leur compte et rencontrent Dieu? En un mot, la réponse consistera à dire que c'est seulement une parole dans un langage clair qui va faire du bien. C'est seulement une parole dans un langage clair qui va faire du bien. Que sont ces langues? Que sont ces langues? J'avoue que pour savoir ce que sont ces langues, je reste perplexe. Comme le disent parfois les Anglais, « the jury's still out ». Le jury n'a pas encore rendu son verdict. Si je m'en réfère à l'Ancien Testament, il va s'agir de langues humaines bien réelles. Il n'y a pas photo, on peut le prendre dans tous les sens. Si l'on se réfère à l'Ancien Testament, il ne s'agit que de langues humaines bien réelles. Si je m'en réfère au récit du don de l'Esprit à la Pentecôte, dans Actes 2, il s'agit de langues étrangères ordinaires, incomprises des apôtres, mais bien comprise des gens à qui il s'adressait à la Pentecôte. Verset 6, « Un bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Verset 11, « Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Chacun les entendait parler dans sa propre langue, comme si tout d'un coup, je me mettais malgré moi à parler en latin, en kinyarwanda, en cantonais, voire en alsacien. Mais voilà que dans ce chapitre 14, ça ne semble pas être la même chose. Ce que Paul dit au verset 2, ce n'est pas que chacun entend quelque chose dans sa propre langue. Ce que Paul dit au verset 2 du chapitre 14, c'est que personne ne comprend ce qu'il se dit. On est très loin d'acte 2. Personne ne comprend ce qu'il se dit. Alors on affirme de nos jours qu'il s'agit d'une langue spécial, donné par Dieu pour nous aider à prier, pour nous aider à le louer. Une langue qui n'en est pas une. Une langue qu'on appelle parfois, et même Paul le fait, la langue des anges. Et le terme technique, c'est la glossolalie, le parler en langue, la glossolalie. C'est quelque chose, la glossolalie, qui n'est pas exclusif aux chrétiens évangéliques. Il faut être très clair là-dessus. La glossolalie, elle existe dans toutes les religions monothéistes, mais également dans d'autres religions et dans quantité de spiritualités de toutes sortes, y compris les plus farfelues. Certains pensent que c'est un mécanisme quasi inconscient, un peu comme le rêve. Si le sommeil et le rêve sont des dons de Dieu, pourquoi pas, de la même manière, le parler en langue ? Pour rester dans les langues étrangères, the jury's still out. Le jury n'a pas encore rendu son verdict. Et la tentation ici, en tout cas pour moi, ce serait d'être catégorique. Catégorique. À partir de ses préférences personnelles ou de ses expériences personnelles, et d'imposer alors une position unique à partir de ce que soi-même nous avons vécu ou pas. Alors je vous propose de faire un peu l'impasse sur cette question pour saisir finalement tout ce que l'apôtre nous dit sur le plan pratique. Et là, il n'y a, me semble-t-il, aucune ambiguïté. Il nous dit qu'il faut parler pour être compris. Il faut parler pour être compris. C'est seulement une parole en langage clair, dit l'apôtre, qui va faire du bien à l'Église. À Corinthe, nous sommes dans une Église où les gens ont leurs habitudes. Ils sont plus ou moins influencés, et on peut le comprendre, hein, par les cultes païens qui ont été les leurs jusqu'à présent. Et dans ces cultes païens, une des spécificités, c'est la recherche de phénomènes extatiques incontrôlés. Et on le voit spécifiquement au début du chapitre 12 qu'on a déjà médité ensemble. Donc les Corinthiens, ou une partie d'entre eux, sont convaincus que parler en des langues inconnues, c'est un signe de spiritualité. Et la pédagogie de l'apôtre consiste à dire « c'est bien les gars, mais il y a mieux. C'est bien, mais il y a mieux. » Et voyez un peu avec moi, cette formulation comparative très claire. « C'est bien, mais il y a mieux. » Verset 2. « Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu. Mais, verset 3, celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, il les encourage et les réconforte. » Verset 4. « Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais, celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. » Verset 5. « Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. » Verset 15. « Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. » Verset 15 toujours. « Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Verset 18. « Je remercie Dieu de ce que je parle en langues inconnues plus que vous tous. Cependant, lors des réunions de l'Église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. » Vous voyez la pédagogie de l'apôtre ? Paul ne dit pas qu'il est mauvais de parler en langue des hommes ou en langue des anges. Il ne dit pas qu'il faut bannir ça. Mais il dit que dans l'Église, quand l'Église est rassemblée, il est de très loin préférable de parler dans un langage compréhensible. Il faut parler clair, il faut parler pour être compris. Et sous la forme d'une boutade, Paul donne même la proportion du parler clair. 5 mots compréhensibles pour 10 000 mots inconnus. Soit 1 mot compréhensible pour 2 000 mots incompréhensibles. Ou 0,05% de paroles compréhensibles plutôt que 100% de paroles incompréhensibles. c'est seulement une parole en langage clair qui va faire du bien. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Et Paul prend soin de souligner alors les inconvénients des paroles que personne ne comprend. Verset 6. Si l'apôtre en personne venait en baragouinant n'importe quoi, il serait d'aucune utilité pour ses auditeurs. Paul inutile. S'il venait en disant des paroles qu'on ne comprend pas. Verset 7. On ne peut pas reconnaître un air de musique si les instruments de musique ne donnent pas des notes distinctes. On le vit le dimanche matin. Si nous avons des notes distinctes, alors nous reconnaissons un air de musique. Mais si les notes sont indistinctes, on ne reconnaît pas l'air de musique. Verset 8. À l'armée, si le son du clairon n'est pas compréhensible, personne ne monte au combat. Verset 9. Parler sans être compris, c'est parler en l'air. Verset 11. Ne pas parler la même langue que quelqu'un, c'est être un étranger pour lui. Sous-entendu, dans l'Église, nous ne devrions jamais nous positionner comme des étrangers les uns à l'égard des autres. Verset 16. Si les gens ne savent pas ce que je dis quand je prie, ils ne peuvent pas dire amen. Verset 17. La prière de reconnaissance, si elle n'est pas comprise, ne fait pas grandir les autres dans la foi. Versets 21 et 22, c'est la citation d'Ésaïe 28, 11 à 12, qui parle de Jérusalem conquise par une armée dure assyrienne. Et quand ces hommes assyriens envahissaient les rues, en parlant dans une langue complètement inconnue des habitants de Jérusalem, c'était un signe du jugement de Dieu. Cette langue inconnue était destinée à chauffer les oreilles de ceux qui ne voulaient pas écouter Dieu quand il parlait en clair. Verset 23. Si un visiteur entre dans l'église et entend dans cette église un brouhaha incompréhensible, il va se dire, dit l'apôtre, que les chrétiens sont fous. Vous voulez prendre le risque que quelqu'un entre dans l'église et en entendant un brouhaha incompréhensible se dise « Mais ils sont dingos ces gens !» Je vais aller voir dans une autre crèmerie. Autrement dit, le culte doit être lisible et compréhensible pour ceux du dehors. C'est un débat chez les chrétiens évangéliques. Le culte, c'est pour des chrétiens ou c'est pour des non-chrétiens ? Clairement, le culte, d'abord, c'est pour des chrétiens qui se rassemblent pour louer Dieu. Mais il doit être ouvert sur l'extérieur et compréhensible pour ceux du dehors qui nous rejoindraient. On comprend donc avec tout cela qu'il vaut mieux parler en clair, qu'il vaut mieux parler pour être compris, qu'il vaut mieux parler pour construire, qu'il vaut mieux parler pour encourager. C'est ce que Paul appelle prophétiser. C'est ça, prophétiser. C'est parler pour être compris, c'est parler pour construire, c'est parler pour encourager. C'est quoi la prophétie ? Paul ne parle pas ici, en 1 Corinthiens 14, de la prophétie qui serait cette parole qui vient directement de Dieu. Vous savez, cette parole que les prophètes de l'Ancien Testament entendaient et proclamaient ensuite telle qu'elle, mot pour mot, au peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait, le prophète entendait, puis il transmettait ce qu'il avait entendu. Ainsi, quand un prophète parlait au nom de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était comme si Dieu lui-même parlait. Le prophète, il était revêtu de l'autorité divine, d'où l'extrême sévérité par rapport aux faux prophètes. extrême sévérité, parce que l'honneur de Dieu était en cause et parce que la santé spirituelle du peuple de Dieu était en jeu. Par rapport aux prophètes de l'Ancien Testament, quand vous entendiez une parole de l'ancien, du prophète, vous n'aviez pas le choix. Vous n'aviez pas le choix. C'est Dieu qui parle, vous, vous devez obéir, point barre. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. La prophétie dans 1 Corinthiens 14, ce n'est pas non plus celle qu'on voit ailleurs dans le Nouveau Testament, où l'on dit par exemple en Éphésiens 2, verset 20, que l'Église est fondée sur les apôtres en tant que prophètes, au sens que Dieu leur a directement révélé ce qu'il voulait nous dire et que le socle de révélation nécessaire à l'établissement de l'Église est définitivement posé. Posé. La prophétie en 1 Corinthiens 14, ce n'est pas non plus des prédictions plus ou moins farfelues dites au petit bonheur la chance. Dans toute la Bible, la prophétie, elle peut inclure la prédiction d'événements futurs. Mais généralement, dans plus de 90% des cas, la prophétie, c'est un avertissement, c'est une promesse, c'est un encouragement donné pour le présent. C'est une invitation à se remettre en question. C'est une invitation à la consécration. Et ici, en 1 Corinthiens 14, quand Paul parle de prophétie, il ne s'agit donc ni d'exiger une obéissance absolue, ni d'annoncer quelque chose de nouveau, ni de prédire quelque chose à venir, mais c'est au verset 3 d'aider les autres à grandir dans la foi, de les encourager, de les réconforter. Au verset 31, c'est une parole qui instruit et qui stimule dans la foi. La grande différence entre la prise de parole à Corinthe et le prophète Ésaïe, par exemple, c'est qu'au verset 29, les gens qui écoutent sont invités à évaluer ce qui est dit, à juger ce qui est dit. Quand c'est Dieu qui parle, je me soumets, point barre. Mais quand c'est David Porter qui parle, quand c'est Denise Félix qui parle, quand c'est Paul-Robert Chanson qui parle, quand c'est Célina Imhoff qui parle, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour eux et pour elles, ce ne sont pas des oracles de Dieu. J'écoute et j'évalue. Et je vous demande d'en faire autant avec moi. Écoutez. Évaluer, exercer une oreille béréenne, acte 17, verset 11. Faites comme ces béréens qui vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Et si vous me prenez en défaut, venez me le dire. C'est ça la communion fraternelle. Je n'ai pas la science infuse, j'ai un peu de temps pour me préparer. Je suis payé pour ça. Mais je peux me tromper. Exercer une oreille béréenne. La prise de parole des prédicateurs, elle doit parler au cœur, comme à l'esprit et à l'intelligence. Elle doit impliquer la communion, le désir de partage, l'affection, le respect de l'autre. La gamme de la prophétie, elle va alors du petit mot d'encouragement à la prédication, du rappel d'une simple vérité biblique. Dieu est bon. Une simple vérité biblique, pour les enfants, pour les ados, pour un groupe de quartier, en passant par toutes sortes de témoignages, des commentaires sur un verset, des exhortations, comme on dit, bien préparées ou pas, mais je vous propose plutôt bien préparées. Et c'est cette diversité dans le partage de la parole à laquelle notre Église tient et qu'elle veut encourager. Bien sûr qu'on va reconnaître à un tel ou un tel une certaine compétence ou une responsabilité particulière. On peut imaginer différents cadres, plus ou moins formels. Mais, et je cite le verset 31, « Vous pouvez tous et toutes prophétiser à tour de rôle, afin que tous et toutes soient instruits et stimulés dans leur foi. Paul dit qu'il faut rechercher ardemment le don de prophétie, verset 39. Et il inclut les femmes dans ce ministère. Chapitre 11, verset 5. Il inclut les femmes dans ce ministère. C'est ce qui nous oblige ici à nuancer le propos de l'apôtre vers la fin du chapitre. Je nous ai entendu être un peu gênés. Puisque les femmes, elles prient et elles prophétisent au chapitre 11 et au verset 5, le silence préconisé ici au chapitre 14, verset 34, il doit être compris d'une manière contextuelle particulière. Nous dirons, pour ce qui nous concerne, que Paul met en garde contre le bruit et le bavardage. Très habituel dans certaines traditions, même de nos jours. Mais dans notre compréhension et notre pratique, les femmes peuvent s'exprimer pour dire la parole et cela contribue à la diversité des prises de parole dans l'Église dans son ensemble. Nous avons besoin de la parole des femmes. Les avantages de la prophétie au sens corinthien du mot sont nombreux. La prophétie à la manière des Corinthiens vise directement la pratique. L'Église dans toutes ses strates est édifiée, encouragée, exhortée, instruite et réconfortée. L'enseignement donne forme l'intelligence. L'enseignement pose des fondements. On peut construire dessus. Si vous ne savez pas ce que vous croyez, comment allez-vous croire ? Vous allez être renversé au premier coup de vent latéral. L'enseignement pose des fondements. Et enfin, quand plusieurs interviennent, c'est la puissance du témoignage collectif. Verset 24, verset 25. La puissance du témoignage collectif qui repose sur la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement l'un ou l'autre professionnel qui parle, mais c'est l'Église dans toute sa variété. Et à travers l'Église, c'est Dieu lui-même qui parle. Je conclus. Au chapitre 13, au verset 9, je crois, l'apôtre dit « Nous connaissons en partie ». Il y a sûrement des détails de ce chapitre 14 qui nous laissent perplexes. Il peut y avoir différentes compréhensions, moi je vous ai dit la mienne. Mais après tout cela, je dois redire que ce chapitre n'est pas un recueil de casse-tête. Son message essentiel est magnifique. Je le résume. Dieu nous parle en clair. Parce que nous ne sommes pas pour lui des rebelles ou des étrangers. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Alors il nous parle en clair. Nous nous parlons en clair. Parce que nous sommes des frères et des sœurs. Nous ne sommes pas des étrangers les uns pour les autres. Nous sommes des frères et des sœurs. Les enfants d'un même père. Sauvés par un même sauveur. Habités par un même esprit, nous sommes des frères et des sœurs. Alors nous nous parlons en clair. Nous sommes plusieurs à parler, dans différents cadres, parce qu'il y a différents dons et services, et que nous pouvons être édifiés par les uns et les autres. Le pasteur, bardé d'expérience et de diplômes, doit pouvoir écouter ses frères et ses sœurs, les jeunes comme les vieux. Dieu veut des églises où règne l'ordre. L'ordre n'est pas opposé à l'action du Saint-Esprit. L'ordre démontre l'action du Saint-Esprit. Et Dieu veut qu'on progresse dans la connaissance et dans l'amour. Est-ce qu'on va se focaliser alors sur un seul verset ou deux qui suscite des controverses ? Très peu pour moi, j'ai donné, c'est bon. On va plutôt remercier Dieu pour sa parole qui enseigne, qui réfute, qui redresse, qui nous apprend à mener une vie conforme à sa volonté. On va accorder une grande place à la parole dans toutes nos rencontres, la parole. Avec nos enfants, avec les pré-ados, avec les ados, avec les adultes, avec les femmes, avec les hommes, tous ensemble au culte, de la place pour la parole de Dieu. Et on va accueillir, j'espère, et on va écouter, j'espère, cette parole. Et on va la laisser nous former, nous reprendre, nous consoler, nous encourager, nous construire et nous équiper pour qu'en fin de compte, toute la gloire reviennent à Dieu. Amen.
Nous invitons à une prière pour remercier Dieu pour et prier pour l'unité dans la diversité. Prions ensemble. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s'est dispersé, de réunir et de reconstituer tout ce qui s'est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, de nous abstenir de toute dissension. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison. Et tourné tout entier vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Esprit Saint. Amen. Eternal and merciful God, you who are a God of peace, love, and unity, we pray to you, Father, and we beseech you to gather together by your Holy Spirit all that has been scattered, to unite and rebuild all that has been divided. Grant us to be changed to your unity, to seek your one and eternal truth, and to refrain from dissent, that we shall have but one heart, one will, one knowledge, one mind, one reason. And having turned wholly to Jesus Christ our Lord, we will be able, Father, to praise you with one mouth, and give you thanks through our Lord Jesus Christ, in the Holy Spirit. Amen.
Eeuwige en genadige God, u die een God van vrede, liefde en eenheid bent, wij bidden tot uw Vader en wij smeken u, breng door uw Heilige Geest alles bijeen wat verstrooid is, om alles wat verdeeld is te herenigen en te herstellen. Bekeer ons tot uw eenheid, zodat we uw eeuwige waarheid kunnen zoeken en ons onthouden van alle verdeeldheid. Dan zullen we één hart hebben, één wil, één kennis, één geest, één reden, en, volledig gericht op Jezus Christus, onze Heer, zullen we in staat zijn, Vader, om u met één mond te loven. En danken wij u door onze Heer Jezus Christus, in de Heilige Geest. Amen.
Eterno e misericordioso Deus, Tu que és um Deus de paz, de amor e de unidade, nós te rogamos, Pai, e te suplicamos, a juntar pelo Espírito Santo tudo o que foi espalhado, para reunir e reconstruir tudo o que foi dividido. Por favor, conceda-nos também nos converter à sua unidade, para buscar a sua verdade única e eterna, e abster-se de toda discordância. Então, não teremos senão um só coração, uma só vontade, uma só ciência, uma só mente, uma só razão. E voltando-nos inteiramente para Jesus Cristo, nosso Senhor, poderemos, Pai, louvá-lo com uma só boca e dar-lhe graças por nosso Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo. Amém.
Nous allons avoir un temps de prière communautaire. Donc, sentez-vous libre de prier à haute voix. On va passer avec le micro. Remercions Dieu pour la diversité que nous représentons, aussi pour l'unité qu'il nous donne. En le connaissant, nous sommes tous ses enfants.
Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce que nous avons entendu ce matin. Et il est vrai, Seigneur, que tout ce qui a été dit, ces prières ce matin, dans d'autres langues, je n'ai rien compris. Merci pour les traducteurs. Et c'est vrai aussi que, malgré ma non-connaissance d'autres langues et de ces langues inconnues, tu as pu parler à mon cœur par les paroles de ceux qui m'entouraient depuis mon enfance, et au long de ma vie, mais aussi par leurs actes, par leur manière d'aimer, d'être, de comprendre et d'encourager. Ô Dieu notre Père, en Jésus-Christ, nous voulons te remercier, je veux et nous voulons te remercier, parce que ta parole est la vérité, comme il a été dit, et tu nous enseignes par cette vérité, et dans l'amour, tu nous envoies vers chacun, en communauté, et ceux qui sont aussi à l'extérieur de notre communauté. Sois loué et béni. Amen.
Seigneur, merci pour la foi que tu nous donnes. C'est un don que tu nous offres de croire en toi, Seigneur. Et merci pour l'intelligence aussi que tu nous donnes à chacun, à chacune. Permet que dans nos échanges entre frères et sœurs, en toi, nous puissions aussi user de cette intelligence et que tu nous gardes dans ta sagesse. Je prie aussi pour tous les chrétiens ce matin, Seigneur, qui sont d'autres cultures, d'autres conditions socio-économiques. Je te prie pour ton Église, Père, pour qu'elle reste unie dans les temps particulièrement difficiles actuellement. Au nom de Jésus, amen.
Amen. On va tous se lever et dire donc ensemble une déclaration de foi que les chrétiens disent depuis 1700 ans environ et partout dans le monde. Ça s'appelle le Credo. On l'a chanté parfois. Et si on peut le chanter, on peut aussi le dire ensemble. Comme ça, on sera à l'unisson tous sur la même note au début. Déclare ensemble qui est notre Dieu et en qui on croit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. On va rester debout justement pour chanter une seule Église.
Et ce Dieu même créateur, le même sauveur, nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit. Ils n'auront qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances. Que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église.
les élus de tout le temps, avec les anges et nous ici présents, passerons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église.
Pouvez vous asseoir.
Ce que je pense,
ce que je veux dire,
ce que je crois dire,
ce que je dis,
ce que tu veux entendre,
ce que tu entends,
ce que tu crois comprendre,
ce que tu veux comprendre,
ce que tu comprends.
Il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre.
Prions. Seigneur Dieu, aide-moi à utiliser mes paroles de façon créative pour apporter la vie aujourd'hui, pour encourager et construire, non pas pour critiquer et humilier. Comme dit le psalmiste, Éternel, mets en garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres.
Parole de Dieu, que ma bouche prononce des mots qui créent la vie aujourd'hui. Lumière de Dieu, que ma vie fasse ressortir les couleurs de chaque situation que je rencontre aujourd'hui. Dieu créateur, fais de belles choses en moi et à travers moi aujourd'hui.
Sois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant et pour toujours. Dieu te bénit. Et pour toujours.
visage brille toujours sur toi. Dieu te bénisse et qu'il te garde, que son visage brille toujours sur toi. Reçois sa paix. Reçois sa paix.
Je vous invite à prendre place, c'est le moment des annonces.
Bonjour à chacun. Une seule église, des dons qui s'exercent aussi durant la semaine. Et c'est l'occasion des annonces de montrer que l'église ne se résume pas au dimanche, mais vit aussi la semaine avec des dons de différentes personnes qui s'investissent. Et j'aimerais aussi remercier Mélanie pour les magnifiques aquarelles, sauf erreur, hein, qui sont affichées sur les côtés. Je vous laisserai après le culte aller les voir, ça, mais aussi un petit peu de décoration et d'animation dans ce bâtiment. Et c'est toujours agréable. Un grand merci. Alors j'espère que mes paroles seront claires. Si jamais vous ne comprenez pas, vous viendrez après me demander des compléments d'information si nécessaire. Aujourd'hui, pour les enfants, il y a le potager numéro 10 qui vient de sortir. Donc il est distribué aux enfants, on en a encore quelques-uns, je sais que certains adultes aiment bien en prendre quelques-uns, donc n'hésitez pas, on les posera à la sortie sur la petite tablette. Ensuite, mardi soir à 20h15, ici à l'église, atelier biblique, le Dieu qui fait alliance, la nouvelle alliance en Jésus avec Philippe Anchaud. La nouvelle alliance en Jésus, virgule, avec Philippe Anchaud. Sinon, il n'y en a qu'un qui est sauvé, ça pose un problème. Enfin, voilà, c'est juste pour être clair encore une fois. Mercredi 23 novembre à 20h, le CTT, groupe de jeunes de 15-25 ans. Jeudi 24 novembre, nous avons la rencontre des deux conseils, donc c'est entre le conseil de notre église et le conseil de la paroisse protestante de Mérin, où on fait deux fois par année une rencontre pour se coordonner sur certains sujets ou certaines activités que nous pouvons avoir en commun. Vendredi 25 novembre, nous avons notre colloque et nous avons renvoyé un rappel par email, notamment concernant la distribution, la répartition de l'excédent. Vous pouvez nous faire des propositions par retour de mail d'ici demain soir pour qu'on ait le temps de mettre tout ça en page pour faire la proposition le vendredi 25 novembre. Si vous n'avez pas d'email, vous pouvez venir après le culte vers moi ou quelqu'un du conseil pour nous transmettre vos informations. Le samedi 26 novembre, c'est la rencontre générale de la FRAE, notre fédération romande des églises évangéliques. Dimanche prochain, 27 novembre, culte avec David Rosset et nous aurons aussi le groupe Lucea avec Alexia Wenger qui nous accompagnera pour la louange. Et puis à 16h, le 27 novembre, le concert de la printanière, donc qui aura lieu dans nos locaux. Je rappelle aussi pour le 27, pour le culte, que nous aurons la présence des saillants qui sont nos envoyés, qui seront donc parmi nous, Jean-Claude Elcia Saillant. Ensuite, le 4 décembre, dimanche 4 décembre, nous avons un repas communautaire et nous aurons la présence des PIO, qui sont aussi des envoyés de notre Église, qui participeront au repas communautaire et puis qui seront parmi nous après 34 ans de ministère en France. Le 8 décembre, Fil d'Argent, c'est une fête, c'est la fête de Noël du Fil d'Argent qui est ouverte à tous. Il y a un apéritif, un repas de midi et puis un après-midi avec la conteuse Marie Ray. Et les inscriptions sont à faire avant le 5 décembre auprès d'André Dufour ou de Marianne Pfund. Et puis encore deux points. À la fin du culte, vous avez toujours un café qui vous est offert. C'est un service qui est rendu. Comme toujours les services, il y a besoin de monde pour pouvoir le maintenir et le continuer. Donc n'hésitez pas à vous proposer pour que ce service puisse continuer. C'est toujours un moment de convivialité et d'accueil. Et pour toute question, vous pouvez vous adresser à André Dufour également. Et puis ensuite, on vous remercie aussi pour votre générosité. L'Église fonctionne grâce à vos dons, uniquement grâce à vos dons, que vous pouvez faire soit via Twint, ou déposer dans la corbeille au fond, ou encore par un virement CCP. IBAN, oui, c'est juste IBAN. Merci de me le rappeler. Et je crois que je suis arrivé au bout.
Puisse ce jour apporter le repos du sabbat à mon cœur et à ma maison. Que l'image de Dieu en moi soit restaurée, que mon imagination en Dieu soit renouvelée. Que la gravité des choses matérielles soit allégée, que la relativité du temps ralentisse. Puisse-je connaître la grâce d'embrasser ma propre petitesse finie dans les bras de la grandeur infini de Dieu. Puisse la parole de Dieu me nourrir et son esprit me conduire dans la semaine et dans la vie à venir. Allez en paix pour aimer et servir Dieu.